de santé 88.4.
Salut à tous et bienvenue sur l'émission Enjeux de santé. Aujourd'hui, on va parler du sida, puisque le 1er décembre, en effet, c'était la journée mondiale de la lutte contre le sida. Et du coup, sur Rennes, il y avait quelques animations en rapport avec cette journée, d'où le 5 décembre, au Champ Libre, il y avait une conférence de Philippe Artière qui présentait donc son livre « Mémoire du sida ». Je l'ai rencontré pour vous afin qu'on aborde historiquement le sida. Donc alors, Monsieur Artière, je suis avec vous parce que voilà, vous avez donc publié avec Madame, Jeannine Pierret, Mémoire du Sida, mais du coup vous avez aussi participé dans le cadre donc de la Journée mondiale de la lutte contre le Sida à une conférence, afin de présenter donc votre livre. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de vous, votre parcours, comment un historien est venu sur le territoire un petit peu du sida, enfin.
Voilà, alors je dirais que en somme, il y a deux histoires ou il y a deux manières de raconter l'histoire qui sont pas forcément contradictoires, mais qui font que finalement ces deux histoires qui sont le récit de la jeunesse de ce livre. La première, c'est que au début des années 90, alors étudiant, alors appelé sous les drapeaux, comme on disait alors, j'ai décidé de faire une objection de conscience de faire un service civil. Et j'ai fait ce service civil au Conseil national du Sida. C'est une instance qui a été créée en 1989 par François Mitterrand. C'est un comité de sages qui doit rendre des avis au gouvernement, mais aussi au Parlement, sur le sida. C'est né du rapport d'un professeur de santé publique qui s'appelle le professeur Go. C'est au moment où est créée l'Agence nationale de recherche sur le sida et l'Agence de prévention du sida, la FLS. Et donc je suis tout simplement objecteur là, et puis je vais devenir 3 ans plus tard rapporteur de ce Conseil national du sida. C'est un lieu de réflexion, mais aussi d'observation de la situation en France et dans le monde. Je suis parallèlement en thèse d'histoire contemporaine sur le 19e siècle.
D'accord.
Et je m'intéresse à un ensemble d'archives, notamment d'archives personnelles. Je suis témoin de ça et je suis à ce moment-là en prise directe avec les travaux que mènent un certain nombre de chercheurs en sciences sociales à l'invitation de l'Agence nationale de recherche sur le sida. Je vois l'ensemble de cette production. Et puis en 2000, je rentre au CNRS. La dernière chose que je fais avant de rentrer au CNRS, c'est de créer avec quelques personnes, dont Jeannine Pierret, une association qui s'appelle Sida Mémoire. Et cette association verse ses archives à l'IMEC, à l'Institut de la mémoire d'édition contemporaine à Caen. Quel est l'objet de l'association ? C'est la collecte de mémoires, de journaux, de lettres, de documents de personnes atteintes par le VIH, donc des écrits personnels. Parce que je me dis que là, il y a quelque chose qui est en danger et qu'il faut absolument... on le fait avec des anthropologues, on le fait aussi avec des gens qui sont plutôt du côté de la littérature. Bon, il y a cette première histoire-là. Donc, à la fois la conscience qu'il y a là des choses d'une extrême importance, puisque nous vivons à ce moment-là le tournant historique. Je pense que c'est pour moi, c'est probablement l'événement historique le plus marquant que j'ai vécu, de l'arrivée des trithérapies. Donc en 1996 au congrès de Vancouver, mais avant ça congrès médical de Washington en janvier 1996. C'est-à-dire que soudain un médicament, enfin, des médicaments, une association de médicaments permet aux gens de vivre. Et plus seulement jusqu'à présent les médicaments permettaient de limiter la maladie, mais pas de l'arrêter. Donc là, on se retrouve avec des gens qui n'ont plus de ce qu'on appelle de charge virale, qui est quand même une chose absolument extraordinaire pour les hommes et les femmes atteintes.
D'accord. Et du coup, pour vous, c'était une nécessité du coup de commencer cette histoire du sida
Disons, cette situation de témoin, cette histoire... et où je rencontre et où je vois ces matériaux. Et le temps passe, et bien des années plus tard, donc il y a à peu près, à l'occasion en fait d'un séjour à la Villa Médicis, je me dis, c'est l'occasion de faire ce que personne n'a fait, de faire une histoire, un récit, plus exactement, un récit des personnes atteintes, de ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on entreprend avec Jeannine Pierret, qui est une des sociologues que j'ai rencontrées dans le contexte de la lutte contre le sida dans les années 90. Donc ça, je dirais que c'est la première histoire. La seconde histoire qui croit celle-là et qui fait que pourquoi de ce livre, c'est l'histoire d'une certaine manière... De la recherche, d'une manière aussi d'écrire l'histoire, et de se dire, il y a un terrible, terrible trou de mémoire. Il y a quelque chose là qui se passe, on oublie totalement qu'il y a même pas 20 ans, qu'il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, 15 ans, les gens mouraient sans qu'on puisse ne rien faire, sans que le pouvoir médical ne puisse rien faire. Et cette mémoire-là, il faut la conserver. Il faut, il faut absolument que les acquis extraordinaires de cette lutte des gens individuels et collectifs puissent être conservés, qu'il y ait une trace. Et là, c'est une démarche collective, consiste à dire. Il faut conserver les archives des associations. J'ai dit qu'il fallait conserver les archives des personnes atteintes, les archives des associations. Il faut essayer de se mobiliser pour que cette histoire ne passe pas dans les poubelles, cet événement ne passe pas dans les poubelles de l'histoire. Enfin, d'autant plus que cet événement n'est pas fini, puisque comme vous le savez, il y a encore des gens qui sont contaminés, il y a encore des gens qui vivent avec le VIH, Et il y a encore des gens dans un certain nombre de pays qui meurent du sida, y compris en France. Parce que bah, parfois il y a des résistances, parfois ça fonctionne pas, etc. Donc c'est bien ça. Et là, on se dit en fait, il existe ces matériaux, parce que la recherche a fait des entretiens pendant des années. On a demandé à des gens qui étaient en fin de vie de parler, de raconter, et les choses sont là. On a tort de se dire que au fond, ça doit avoir une durée de vie extrêmement limitée. Il n'y a pas de raison. Ces archives sont les archives d'une société.
Oui, il y a donc un aspect sociologique important dans votre livre.
Bah, l'aspect sociologique, c'est le projet, c'est-à-dire que le livre étant construit en fait à partir des entretiens menés entre 1986 et 2005. C'est près de 250 entretiens qu'on a lus et dans lesquels on a découpé des passages qui nous semblaient relever d'une histoire collective et qui dessinaient cette histoire collective. Donc c'est un montage, hein, on a vraiment opéré un montage de cette parole suscitée par les sciences sociales. Et à partir de là, oui, c'est une dimension éminemment sociologique, mais évidemment, il ne s'agit pas de dire ceci est le récit unique, mais c'est un récit polyphonique, c'est-à-dire que contrairement, à ce que les sciences sociales font le plus souvent, là, ce qui nous a intéressé, c'est aussi qu'il y ait des contradictions dans les récits. Parce que la perception d'un événement et la perception d'une expérience telle que celle de la maladie, elle n'est pas unique. Et c'est pas tant qu'on soit homosexuel, usager de drogue, hétérosexuel, bisexuel, etc., qui détermine la manière dont on a vécu la contamination et la maladie. Mais c'est l'expérience de la maladie en tant que telle. Ça qui est moteur dans le livre, qu'on a vraiment voulu rendre accessible au plus grand nombre.
Et voilà, c'était donc Philippe Artière qui nous présentait un petit peu son parcours, mais à la fois aussi le parcours de son livre. On va poursuivre avec une petite pause musicale et on se retrouve après.
Another girl, but that's all right. Well, sometimes I wonder who's loving you tonight. You told me, baby, your love for me was strong. When I woke up this morning, your big words had gone, but that's all right. I know you love another gal, but that's all right. Sometimes I wonder who. You gone and left me here without a man.
Eh bien voilà, la pause musicale est maintenant terminée. On va pouvoir reprendre avec Monsieur Artière qui va nous raconter un peu plus aussi le devenir du sida et aussi nous parler de quelques clichés qui se sont insérés dans cette histoire. Mais je vous laisse écouter. Vous avez dû rencontrer aussi pas mal de clichés, je pense, en voulant construire l'histoire du sida. Et du coup, est-ce que vous les avez retrouvés, mais est-ce que du coup, il y a quelque chose de faux, en fait ? Enfin, justement, vous parlez d'homosexuels et autres, on dit souvent que ça vient de... Enfin, c'est eux qui auraient commencé de plus lors de la journée, donc de la lutte... la journée mondiale de lutte contre le sida, il y avait aussi une conférence en parallèle avec la vôtre sur le sida, du singe à l'homme et après. Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi l'origine du sida qui est vraiment très controversée. Est-ce que du coup, vous l'avez un petit peu élucidé ?
Non, c'est absolument pas la démarche qui est la nôtre, puisque nous, le livre commence dans les années... il y a une ouverture, c'est les années avant. Qu'est-ce que c'est que vivre avant l'épidémie, et notamment sur ces questions, ces pratiques, dans les pratiques sexuelles, etc. Mais d'abord, et là je m'offusque au sens où, si vous voulez, il n'y a pas des gens qui sont responsables de l'épidémie. C'est pas les homosexuels. C'est ce que Grémec avait appelé dans son histoire au départ. Les épidémiologues appelaient des groupes. Il y avait quatre groupes, c'était les 4 H, comme on se souvient bien, les haïtiens, les héroïnomanes, les homosexuels et les homophiles. C'est les 4 groupes qui ont été touchés d'abord par cette épidémie. Ça ne signifie en rien qu'il s'agit de stigmatiser ce que les épidémiologues encore appellent des populations. Ce serait vraiment une erreur de penser les choses en ces termes-là. On sait très bien aujourd'hui que, il y a des cas qui sont documentés qui montrent combien, cette épidémie, il y a des cas dès 79. Moi, ce qui me paraît important et ce que montre le livre, je trouve très très bien. C'est pas moi qui le montre, ce sont les témoins, ce sont les acteurs, ce sont les personnes atteintes. C'est que la mondialisation est absolument contemporaine du développement de l'épidémie. Et que la circulation des gens a largement nourri, évidemment, cette pandémie. Parce que c'est pas une épidémie, c'est une pandémie. J'ai donné cet exemple lors de la soirée à Rennes. La chute du mur de Berlin a des effets considérables, non pas seulement à l'Est, mais en Afrique. La pandémie se répand aussi parce que des barrières tombent, parce que des soldats cubains repartent à Cuba, dans un certain en Angola, dans un certain nombre de pays, il y a d'autres populations. Ça s'ouvre, la chute de l'apartheid, tout ça, ça ouvre complètement des barrières. Il y a ces fameuses routes dont on a beaucoup parlé avec le fait que les routes panafricaines ont joué un rôle dans la diffusion du VIH, etc. Mais en France, on peut aussi, ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a des effets très positifs aussi de cette circulation. Des informations viennent très vite des États-Unis, parce qu'il y a des patients qui y vont très souvent, et qui c'est même plus souvent que les médecins, etc. Vous voyez. Donc on est effectivement dans une épidémie qui est extrêmement contemporaine de nos modes de vie. Avec une ouverture des pratiques qui sont différentes de celles qu'on avait après-guerre. Et là, je ne vais pas refaire l'histoire, ni une histoire de la sexualité, ni une histoire de l'usage de drogue, ni d'une manière générale, une histoire des relations entre les individus. Notre société a changé et de fait, cette maladie extrêmement contemporaine et en même temps a remis au centre de nos vies la mort. Et la mort de gens très jeunes. Alors que l'expérience de vie avait complètement explosé, et bien soudain, on enterre des gens jeunes.
Dans vos témoignages donc, du livre, j'ai lu un petit peu un résumé, entre guillemets. On peut y voir du coup certains témoignages où les gens ont vraiment envie de lutter, mais aussi le désespoir. Et dans ce livre, vous n'avez pas en fait aussi envie de montrer aussi une prise de conscience? Justement, on n'entend pas souvent les malades et plutôt les scientifiques.
Si, si. Alors ça, c'est l'autre aspect qui caractérise, je crois, très bien ce moment SIDA, qui n'est pas encore une fois dans lequel nous sommes. C'est le fait que, en France, l'épidémie a été, et même dans le monde, a été un moment où il y a eu une prise de parole des personnes atteintes. Elle s'est faite de plusieurs manières. Elle s'est faite à travers la création d'associations, en France, de l'association AIDE, en particulier, dès 85. À travers aussi des prises de parole individuelles. À travers tous ces témoignages recueillis par les sciences sociales. Donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en avant, c'est que le SIDA a non seulement remis la mort au centre de nos vies, mais il a aussi remis la vie, c'est-à-dire la parole des personnes vivant avec le VIH au cœur de notre vie politique, de notre vie sociale. Je pense à des manifestations, mais je pense aussi à la manière dont les politiques ont été obligés d'entendre la parole de ces personnes, dont les institutions ont été obligées d'entendre la parole des patients. Il ne faut jamais oublier que, je donnerai deux exemples. Premier exemple, que le PACS, il est quand même né, et aujourd'hui, d'une certaine manière, le mariage homosexuel. C'est une revendication qui est née de la situation qui a produite le sida. C'est-à-dire de gens qui, en particulier, se sont retrouvés à la rue, parce qu'ils n'avaient aucune existence juridique. Des couples, parfois des couples, quelle que soit la durée de ces couples, des couples qui, s'ils avaient été hétérosexuels, auraient été considérés, n'étaient plus considérés, et des conjoints étaient spoliés d'un appartement, spoliés d'objets, de tout. Les familles reprenaient tout. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, il est, je dirais, encore à une dimension plus générale encore. C'est celle des hôpitaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu une loi, la fameuse loi, je crois que c'est Kouchner, sur le droit des malades. Les malades siègent dans les conseils d'administration des hôpitaux. Bon, c'est quand même une avancée absolument majeure. Et ça, c'est né de l'action d'un certain nombre de personnes, et notamment dans les associations, de faire en sorte que l'institution hospitalière change, qu'elle entende, qu'elle soit attentive aux gens qu'elle soignait, aux gens qui mouraient aussi là, c'est-à-dire en matière de prise en charge de la douleur, en matière de d'horaire de consultation, etc., etc.
Et du coup, vous diriez que l'histoire du SIDA va vers du mieux?
L'histoire du SIDA, oui, puisque dans une certaine mesure, malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde au sens de la planète. Hein. Tout le monde n'est pas aujourd'hui, n'a pas accès, un accès égal au traitement. Il vaut mieux vivre en France que vivre en Ukraine, par exemple, comme une récente enquête d'Éric Favreau l'a montré. En Ukraine, visiblement, quand on a le sida, ben, c'est vraiment une catastrophe. Ça, c'est le premier aspect. Par ailleurs, c'est pas que l'histoire du sida va vers du mieux, c'est que les personnes atteintes nous ont, je l'ai dit le soir de la conférence à Rennes, personnes atteintes nous ont véritablement livré une leçon de vie, même si beaucoup sont morts, ils nous, une leçon de vie au sens où ils ont essayé, ils ont lutté pour non pas ils luttaient à la fois contre leur propre maladie, mais aussi ils ont lutté contre des tas de barrières, d'obstacles, de tabous, de stigmatisation. Et je crois que la société française, elle leur doit aujourd'hui beaucoup sur le plan de l'acceptation d'un certain nombre de choses. Les patients qui vont à l'hôpital aujourd'hui doivent beaucoup aux patients du sida qui sont morts.
Du coup, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là pour me parler un petit peu de votre livre « Mémoire du sida ».
Ben, je vous remercie beaucoup.
Eh bien,
au revoir.
C'est un plaisir. Au revoir.
Bien voilà, en jeu de santé, c'est déjà fini. C'était un petit rappel de l'histoire du sida qui se crée en même temps que nos vies, puisque c'est vrai que Philippe Artier n'arrête pas de le répéter, l'histoire est actuelle et contemporaine, c'est nous qui allons la dessiner. C'est pour ça, chers auditeurs, sortez couverts. Et puis, bonne journée à vous.